J'en passe à la présentation de notre conférencier de ce soir, Monsieur Jacques de Mongeau. Jacques de Mongeau est né le 25 mars 1946 à Dijon. Il est biomathématicien. Il est directeur du département d'information médicale du CHU de Grenoble et du laboratoire technique de l'imagerie, de la modélisation et de la cognition, TIMC. Il est membre de l'Institut universitaire de France depuis 1994. Il est docteur en mathématiques, docteur en médecine et agrégé de médecine. Dans son parcours, je vais mentionner un certain nombre de dates. D'abord, il est professeur à l'université Joseph Fourier de Grenoble depuis 1985. En 1990, il est devenu directeur du département d'information médicale du CHU de Grenoble. Et entre 1998 et 2000, il a dirigé le programme Technologie pour la santé au ministère de l'Éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Jacques de Mongeau est membre de nombreux comités de rédaction de revues nationales comme internationales. Et en particulier, il est éditeur en chef de Acta Biotheorica, qui est la plus ancienne revue dans la discipline, puisqu'elle a, m'a-t-il dit, 80 ans. Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées et a participé à la publication de nombreux ouvrages. Il est également membre de nombreuses sociétés scientifiques internationales et en particulier, il a fondé la société européenne ESMTB, European Society for Mathematical and Theoretical Biology, dont il a présidé entre 1997 et 2000. Voilà, Jacques de Mongeau, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi pourra suivre un débat d'une vingtaine de minutes avec le public. Je vous remercie.
Bien, merci. Donc nous allons parler d'observables cachés et je commencerai par une représentation donc, de ce qui est caché chez quelques peintres. Vous connaissez ce tableau de Dali. Dali s'est représenté en petite fille et il essaie de regarder ce qui est caché sous la surface de la mer. Au lieu de découvrir un poisson, il découvre un gros chien. Alors en fait, il y a une représentation qui est très intéressante qu'on peut voir au plafond de la Sixtine, donc à Rome, qui est la représentation de la création du monde. Alors on dit des fois que c'est la première synapse, donc entre le doigt de Dieu et le doigt d'Adam. Mais si on regarde la robe donc, qui enveloppe Dieu et ses anges, on a des surprenantes analogies avec la structure donc, du cerveau. Vous voyez, le pied de cet ange correspond ici donc, à l'hypophyse. Cette scissure ici se retrouve ici. On a, alors je ne vais pas représenter tout, la robe de Dieu, mais on a l'équivalent des autres scissures. Donc on pense qu'à l'époque, Michel-Ange donc, a disséqué, il était interdit de représenter, d'ailleurs il était même interdit de disséquer, il était interdit de représenter de manière détaillée donc, l'intérieur du corps humain, mais il nous a laissé sur la Sixtine donc, cette information cachée. Alors là, c'est une phrase intéressante de Buffon, donc, qui vers 1750 à Dijon a dit la chose suivante. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire. Le corps d'un animal est une espèce de moule intérieur. Je ne vais pas regarder la suite, mais le mot intéressant, c'est moule intérieur. 100 ans avant Claude Bernard et son célèbre milieu intérieur, donc Buffon disait qu'en fait, le corps d'un animal a un moule qu'il est difficile, c'était très très abstrait, hein, qu'il est difficile de voir, qu'il est difficile d'abstraire, et c'est sur cette notion de moule intérieur qu'on va travailler maintenant. Donc en fait, on va travailler à plusieurs niveaux. Les niveaux classiques de la biologie et de la médecine, c'est le niveau du gène, de la cellule, de l'organe, de l'individu et de la population. Donc je vous invite à commencer par le gène avec moi. Donc en fait, le gène, c'est quelque chose qui est relativement récent comme notion. Par exemple, ce que vous connaissez le mieux, c'est la notion de chromosome. Vous savez qu'à l'intérieur de chacune de vos cellules, vous avez donc un certain nombre de chromosomes. Et voilà la représentation de tous ces chromosomes tels qu'on peut les voir donc, sous un microscope, on appelle ça un caryotype. Et on peut voir ça, le caryotype donc, de certains patients typiques qui ont des maladies chromosomiques, on peut le voir sur Internet. C'est un site Internet que j'ai choisi qui s'appelle HC Forum. Alors le mot même de chromosome a été inventé seulement en 1888 par Waldeyer, donc pratiquement 25 ans après les célèbres expériences de Mendel. Mendel faisait ses expériences sans connaître même le mot de chromosome. Alors ces chromosomes, on peut en fait regarder, vous avez vu, il y a des bandes blanches et des bandes noires sur ces fameux caryotypes. Donc sur le chromosome 1, sur le premier, qui est le plus grand, ici ils sont rangés par du plus grand au plus petit. Sur le premier, si on s'amuse à zoomer sur une de ces bandes noires, en fait, un autre site qui n'est pas chez Forum, mais qui est GenAtlas, c'est deux sites français. GenAtlas a été développé à Necker par Fraisal et HC Forum a été développé à Grenoble par Cohen. Donc sur ces deux sites, quand on s'amuse à faire un zoom sur un chromosome, sur une bande sombre ici, en fait on voit toute la liste des gènes qui correspondent à cette petite zone. Donc quelque part, s'il y a un accident dans un karyotype sur une de ces bandes, eh bien, on peut voir tous les gènes qui sont impliqués. Donc ça, c'est déjà une réalité cachée, et on va essayer d'aller plus profondément vers cette réalité cachée. Alors, en exploitant ça, en voyant les gènes qui sont, par exemple, absents, on peut en fait donner des conseils. Là, vous ne voyez pas bien, mais c'est un petit rapport qui, toujours sur le serveur HC Forum, est fait pour un généticien humain qui est en train de conseiller une famille. On lui dit, attention, dans le cas de cette translocation, c'est-à-dire un bout du chromosome 11 qui a été se mettre sur le chromosome 22, eh bien, on peut s'attendre à 25%, en fait 24,8% d'anomalies si cette translocation est d'origine maternelle, si c'est la mère qui la porte. Donc là, on commence à voir une espèce de réalité qu'on ne verra jamais, même avec les microscopes les plus puissants, mais qui est induite finalement de l'observation du karyotype et de la connaissance des gènes. Alors, depuis quelque temps, vous avez dû lire dans la littérature qu'on peut voir en quelque sorte les gènes en expression. C'est ce qu'on appelle les biopuces. C'est une espèce de carte ici sur laquelle vous avez un millier de gènes. Quand il y a un petit point noir, ça signifie que le gène s'exprime. Donc chaque place sur cette petite quadrillage correspond à un gène. Et quand les gènes s'expriment, ils sont en noir. Quand ils s'expriment moins, ils sont en gris. Quand ils ne s'expriment pas, il y a des grands blancs. Alors quand on prend une cellule humaine et qu'on la regarde en cours d'expression, alors qu'est-ce que c'est que l'expression d'un gène ? Le gène s'exprime quand il bâtit une protéine. Je ne vais pas vous refaire un cours de génétique. Vous savez qu'entre le gène et la protéine qui est créée, il y a effectivement tout un certain nombre d'étapes intermédiaires. Mais finalement, quand un gène est en cours d'expression, en train de commencer à bâtir une protéine, on peut le voir à l'aide de cette cartographie obtenue par les biopuces. Donc c'est une réalité qui est assez fine, mais qui est assez différente finalement de la précédente. Parce que la précédente, c'était une réalité qui était anatomique, c'est-à-dire on regardait la localisation des gènes, et ça, c'est une réalité très cachée, qui est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on regarde ceux qui sont exprimés, ceux qui ne sont pas exprimés, indépendamment finalement de leur localisation dans le génome, dans la cellule. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on voit des choses curieuses, et l'expression en fait des gènes, pour être tout à fait intéressante, correspond maintenant, dans une cellule humaine, à tous les ingrédients dont on a besoin pour créer un tissu. Alors, vous avez beaucoup de gènes à l'intérieur de votre corps, des noyaux donc, de toutes vos cellules. On pense qu'on en a entre 30 000 et 50 000. On va retenir le chiffre de 50 000, qui est un chiffre rond. Et avec ces 50 000 gènes, vous fabriquez à peu près 250 tissus. Vous avez un tissu rétinien pour voir, vous avez un épiderme pour vous protéger. De l'environnement, vous avez 250 tissus différents, c'est très peu par rapport à 50 000 gènes. Alors il y a une chose qui est assez intéressante sur laquelle on reviendra, c'est qu'en fait 250 c'est la racine carrée de 50 000. C'est une observation très curieuse qu'on a fait il n'y a pas longtemps et c'est une de ces réalités cachées dont je vais un petit peu vous parler. Alors Goethe, lui, en 1790, il a écrit que sur des organismes simples, en particulier un rosier qu'il appelait le rosier vert, qui était une mutation des rosiers classiques, il n'y avait qu'un tissu. Parce que dans ce rosier, ça j'ai photographié chez un de mes amis, donc un descendant du rosier de Goethe, en fait, ça c'est la fleur, ça c'est la feuille. Et la fleur, comme toutes les fleurs, elle comporte quatre tissus, des sépales, des pétales, des étamines et du pistil. Tous ces tissus sont verts. Comme il n'avait pas le moyen d'investiguer beaucoup cette plante, Goethe a dit, dans le fond, il n'y a qu'un tissu, et c'est par des transformations qu'il appelait des métamorphoses, que les feuilles vont donner les sépales des pétales, les pétales des étamines, et les étamines le pistil. Et il disait même que ça peut aller en sens inverse. Et ici, dans une petite phrase, alors ça c'est d'après un dessin de Goethe, là c'est une photo d'un descendant de son rosier, et il a une petite phrase à droite qu'on ne va pas lire, mais dans laquelle il dit que la pétale peut régresser en sépale et la sépale en feuille. Alors en fait, il y a eu une phrase assez fondatrice de cette réalité, des tissus et des relations entre tissus et gènes, qui a été donnée par Delbrück à Paris en 1949, un des premiers congrès internationaux du CNRS. Le CNRS avait été créé 2 ans avant. Cette phrase a été reprise de son contexte et mathématisée, on va dire, par un de nos amis, René Thomas, en 1973. Donc René Thomas a eu la grande médaille de l'Académie des sciences l'année dernière, en partie pour ce type de travaux. Et alors Delbrück, il a dit une phrase très bizarre, et là il y a de la réalité cachée, l'existence de boucles positives est nécessaire à l'apparition de tissus distincts. C'est-à-dire, si vous voulez avoir beaucoup de tissus, en particulier dans le rosier, il y en a beaucoup plus que croyait Goethe, eh bien, il faut avoir à l'intérieur donc, du réseau de régulation des gènes des boucles positives. Qu'est-ce que c'est que des boucles positives? Je vais essayer de vous l'expliquer. Imaginez que vous ayez que deux gènes dans un organisme. Mais ces gènes, ils peuvent être en interaction, ils se causent, hein, ils s'envoient des messages, et ils peuvent être en interaction négative et positive. Ici, c'est une double interaction négative. Le gène G2 réprime le gène G1, c'est-à-dire que quand il est en expression, il tend à annuler l'expression du gène G1, mais le gène G1 fait pareil sur le gène G2. Donc on dit qu'ils sont en boucle, parce qu'il y a des messages qui peuvent passer dans les deux sens de l'un à l'autre. Alors, de manière générale, on aura des boucles avec des intermédiaires, c'est-à-dire qu'on ira de G1 à G2 en passant par G3, G4, G5. Et qu'est-ce qu'on appelle une boucle positive? C'est un chemin sur lequel le nombre des interactions négatives est en nombre pair. Alors, des réseaux comme ça d'interactions négatives et positives, hein, ça peut être une famille. Vous savez que dans une famille, je ne sais pas, le père, par exemple, peut être en conflit avec le fils. De manière systématique, il va s'opposer. Le fils va s'opposer à son père. Voilà, une boucle positive parfaite entre père et fils. Moi, je vous ai décrit une boucle entre gènes. Alors, on va regarder des boucles pour des plantes. Je me suis amusé à herboriser, là, il y a 15 jours, les plantes qui sont les plus étudiées par les biologistes à l'heure actuelle. Il y a Arabidopsis thaliana, donc on connaît tout le génome, tout a été décrypté. On connaît donc tous les gènes qui sont dans les cellules d'Arabidopsis thaliana. On l'appelle l'arabette des dames. Hein. Il se trouve dans la plupart des jardins. Je l'ai ramassé dans mon jardin, puis je l'ai posé sur mon mat. Ça, c'est l'herbosane. Hein. L'herbosane ou l'onagre, cher à Lamarck, donc le nom latin est Eunotheria lamarckiana. Alors, c'est une herbe célèbre. Malheureusement, je n'avais pas de fleurs. Ça fleurit fin juin. Et comme je suis un petit peu en montagne, je n'avais pas de fleurs. Donc, j'ai pris les fleurs chez De Vries. De Vries a beaucoup travaillé en 1900 sur l'onagre parce que c'est sur cette plante qu'il a démontré donc, l'existence des mutations. Il y a des gros échanges entre les chromosomes de Neteria qui sont en fait des translocations, ce n'est pas des mutations ponctuelles du tout. Mais ces translocations, il les a décrites sous le nom de mutations. Il a écrit en 1901 son célèbre livre « Die Mutationstheorie » à partir donc, de cette fameuse herbosane. Donc ça, c'est les deux plantes qui sont les plus étudiées à l'heure actuelle. Alors, l'arabette. Regardons la fleur d'arabette. Alors la fleur d'arabette, comme toutes les fleurs, elle a quatre tissus, des sépales hein, pour protéger la fleur, des pétales pour attirer les petits insectes là, qui vont aller d'une fleur à l'autre pour assurer la fécondation, et puis les deux organes mâles et femelles, étamine et pistil. Alors quand on regarde le réseau des gènes qui participent à la floraison, si ces gènes ne marchent pas, on n'a pas de fleur. Il n'y en a que 11. Ces gènes ont été très, très étudiés. Et l'étude finale, qui est une étude mathématique très, très jolie, a été faite par un de nos amis mexicains qui s'appelle M. Mendoza. Alors, si on regarde les relations qu'entretiennent entre eux les gènes, bien, il y a de nombreuses activations, où il y a des plus. Il y a pas mal d'inhibitions aussi, où il y a des moins, ici, par exemple. Et dans ce réseau, si je regarde le nombre d'interactions, en principe, comme il y a 11 gènes, il pourrait y en avoir 11 fois 11, c'est-à-dire 121, ils pourraient se causer tous de manière complète. En fait, il n'y en a que 22. Il n'y a que 22 manières de s'échanger des messages. Alors, ça intéresse beaucoup les mathématiciens, ça, parce que le nombre d'interactions divisé par le nombre de gènes est égal à 2. Il y a exactement 2 fois plus d'interactions que de gènes. Et on est en face d'un graphe d'interactions qui est assez intéressant, dont la connectivité, hein, c'est-à-dire le pouvoir, le nombre d'interactions divisé par le nombre de gènes, est égal à 2. Donc c'est un graphe à connectivité 2. Alors qu'il y a des choses intéressantes, j'ai localisé les boucles positives. Il y en a 4, une ici avec 2 moins, une ici avec 2 plus, il y en a 4. D'accord ? Et puis il y a 2 boucles négatives. Alors les gens s'interrogent énormément sur ces boucles à l'heure actuelle. Et en fait, comme le disait Delbrück, c'est ça la grandeur, l'observable caché à regarder, c'est le nombre de boucles. Et c'est le nombre de boucles qui est relié au nombre de tissus. Il y a 4 tissus. Alors, quand on joue avec ce réseau et qu'on supprime des boucles, on arrive à faire des fleurs qui n'ont que des sépales ou des fleurs qui n'ont que des étamines ou des fleurs qui ont donc que des pétales. Et ce jeu-là, cette combinatoire, est entièrement prédite par la connaissance de ce réseau. Alors ça, c'est pour les petites fleurs. Si je regarde maintenant un animal, alors on a une étape, c'est la drosophile. On a une étape de notre développement qui ressemble beaucoup à cette étape-là, puisque finalement, au cours de l'embryologie, on récapitule donc toutes les espèces de l'évolution, et il y a un moment donné, on ressemble un petit peu donc à l'embryon de drosophile. Il y a une étape où le cylindre primitif se creuse, le cylindre, on le voit là en section, et puis on a un tube qui apparaît, qui est tout simplement le tube digestif. On va bien manger un jour, donc on crée un tube qui va de la bouche à l'anus et qui va être tout le long donc, de ceci-là. Et pour créer ce tube, finalement, on fait quatre tissus. Alors, on fait un arc. Quand vous faites un arc roman, ça, c'est un dessin d'Yolet-le-Duc, vous avez donc des cellules cubiques qui forment le sommier, vous commencez à faire des cellules trapézoïdales assez allongées pour faire les voussoirs, vous placez une belle clé de voûte au-dessus, qui est une cellule aussi trapézoïdale, et puis vous remplissez les intrados par un épithélium pavimenteux qui est ici. Donc ces quatre tissus, on en a besoin, ce sont quatre variétés de cellules différentes dont on a besoin pour faire le début donc, de ce qui sera notre tube digestif dans l'embryon. Alors, il est clair que ça, la formation de ce tube digestif qu'on appelle la gastrulation, qui comporte quatre étapes, la construction, donc on maçonne les quatre tissus différents, c'est aussi sous la domination donc, d'un réseau. Alors, le réseau, le voilà. Alors, ce réseau, alors c'est intéressant, j'ai mis qu'un gène ici, qui est le gène, en fait, une petite famille de gènes qui commande le cytosquelette. Dans chacune de vos cellules, la forme dépend finalement des rapports entre le centre de la cellule, le centriole, et les parois de la cellule, la membrane cytoplasmique. Et il y a des espèces de bras qui vont du centre du centriole donc jusqu'à la paroi cytoplasmique et qui assurent la morphologie globale, cubique, trapézoïdale allongée, trapézoïdale courte ou bien pavimenteuse. Et finalement, ces gènes sont hyper importants. Quand on regarde leur régulation, je n'ai pas mis le nom des autres gènes, ça, c'est un premier schéma qui a été fait par des biologistes chiliens il y a à peu près 6 mois. On a vu apparaître en fait deux boucles positives quand on a explicité cette régulation. Alors ces deux boucles positives, malheureusement, sont tout à fait insuffisantes pour assurer quatre variétés de cellules. Ça, c'est un petit tableau qui est un peu dur à comprendre et qui est le tableau suivant. Là, dans la première ligne, vous avez le nom en fait de tous les gènes qui apparaissaient dans les petits ronds du réseau. Et en particulier, ces petits groupes de gènes importants du cytosquelette, que j'ai appelé CYT. Et puis je mets un 0 si pour le tissu correspondant, les gènes sont inactivés, c'est-à-dire n'expriment pas de protéines, et un 1 s'ils sont en cours d'expression, c'est-à-dire s'ils expriment une protéine. Alors malheureusement, quand on regarde cette signature, c'est une espèce de signature d'expression, quel gène s'exprime dans la cellule cubique ? Dans la cellule cubique, il n'y en a que 2, vous voyez, il n'y en a que 3. En fait, je n'ai pas d'expression particulière du cytosquelette. Et puis, pour les cellules trapézoïdales longues, courtes et pavimenteuses, en fait, on a exactement le même diagramme d'expression. Alors ça, c'est très, très, très embêtant pour un biomathématicien, parce que ça signifie que, puisqu'on a exactement les mêmes protéines construites, il n'y a aucune raison qu'on ait des formes différentes. Donc, il y a un manque dans le réseau, il y a des gènes qu'on a oubliés. Alors évidemment, on a fait retravailler les biologistes. Ça, c'est un travail qui a été fait donc, à partir du mois de mai, c'est tout récent. Et le nouveau réseau, le voilà. Ça, c'était l'ancien. Et dans le nouveau, on est obligé de commander le cytosquelette par 2 gènes très énergétiques, qui sont le gène de l'adénylate kinase et le gène de la guanidinate kinase, qui commandent respectivement pour l'adénylate, donc la structure, le cytosquelette d'actine, et pour la GDK, le cytosquelette de tubuline. Donc, en fait, ajouter ces 2 gènes qui commandent ces 2 enzymes, en fait, c'est ajouter 2 boucles positives. On en a les 4. Et on retrouve, et les mathématiques vous disent que ouf, c'est bien, puis on a ajouté juste ce qu'il fallait, c'est ce qu'on appelle une opération a minima, on retrouve bien l'existence des 4 tissus, et quand on regarde le diagramme d'expression, on distingue effectivement les 4 tissus différents, donc cubique, trapézoïdal, court et long, et puis pavimenteux. Donc vous voyez que ça, c'est des réalités qu'on n'a pas quand on regarde un caryotype, parce que le caryotype, ça vous dit, bon, il y a peut-être un petit bout donc, de gène qui manque, il y a peut-être un chromosome qui est trop long, il y a des tas d'accidents, effectivement. Mais ces gènes dont on regarde l'anatomie, on les voit pas bouger, on ne voit pas la fonction, on ne voit pas ce qu'ils échangent comme message entre eux. Et cette réalité cachée, c'est une réalité très profonde. Dans les 10 ans à venir, je pense qu'on aura élucidé donc, tous ces diagrammes qui commandent non seulement la formation du tube digestif, mais la formation la plus difficile, c'est la formation du cerveau. Hein. C'est le seul vrai organe en 3 dimensions donc chez l'être humain. C'est une formation qui est très difficile à comprendre. Alors, c'est sûr que ces diagrammes sont difficiles à obtenir. Si j'ai 50 000 gènes, le nombre de manières qu'ont 50 000 gènes de causer à 50 000 gènes, ça fait 50 000 fois 50 000 flèches. Alors, heureusement, on pense que dans la plupart de ces diagrammes, ce qui était vrai pour Arabidopsis thaliana, ça reste vrai chez l'homme, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a que 2 fois plus d'interactions que de gènes, c'est-à-dire environ 100 000. Et c'est juste les circonstances dans lesquelles les théorèmes mathématiques marchent bien. Alors ces théorèmes mathématiques, je vais vous en donner un exemple, parce qu'il y a une excitation extraordinaire de la communauté des maths discrètes là-dessus en ce moment. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler. Le génome humain, c'est des bases qui sont enfilées comme des perles hein, dans votre génome. Ces bases, c'est l'adénine, la thymine, la cytosine, la guanine. C'est, des souvenirs donc, de terminal. Il y en a 35, 10 puissance 8. Il y en a pas mal. Hein. Mais quand on regarde le nombre de gènes, on en retrouve 50 000, 5, 10 puissance 4. Je vous ai dit que c'est à peu près la racine carrée. Et quand on passe du nombre de gènes à nombre de tissus, on en trouve 250. Hein, vous prenez un livre d'histologie, vous regardez, vous comptez le nombre de tissus qui sont décrits. Suivant les bouquins, qu'ils soient français ou américains, vous tomberez entre 250 et 300. Et la même loi d'échelle marche. Vous avez le nombre de tissus qui est égal à la racine carrée du nombre de gènes. Eh bien, dans le cas où les réseaux sont de connectivité 2, c'est-à-dire où vous avez un certain nombre de gènes qui sont aux extrémités du réseau, vous regardez les arêtes, vous regardez la manière dont ils se causent, et on a deux fois plus d'arêtes que de gènes. Dans ce cas-là, la prédiction, le nombre de structures qu'on peut obtenir, de structures phénotypiques de tissus qu'on peut obtenir à partir du nombre de gènes, est parfaitement démontré, c'est T égale racine de G. Bon, c'est un résultat qui avait été conjecturé par un de nos amis, Stuart Kaufmann, il y a environ 15 ans, qui avait été simulé par un certain nombre de physiciens français, dont Bernard Derrida, il y a environ 12 ans, et qui est démontré parfaitement maintenant, en particulier, c'est un de mes élèves qui a contribué, un de mes élèves chiliens qui a contribué à ce résultat. Alors, ceci dit, il y a des résultats assez drôles. Si vous regardez les os, par exemple, vous avez besoin de 904 gènes pour faire vos os. Vous regardez à l'intérieur des os, vous comptez le nombre de tissus qu'il y a dans la moelle, dans l'os, dans les cartilages, dans les vaisseaux qui nourrissent donc, les os, et vous en trouvez une trentaine. Donc, la loi d'échelle, racine carrée de 900 égale 30, est aussi vérifiée. Donc, ça sert à quelque chose, les maths, ça sert en particulier à expliquer ces réalités cachées qui sont derrière donc, tout ce qu'on voit avec le microscope. Alors, le microscope inventé par Hooke et Van Leeuwenhoek, donc il y a quand même pas mal de temps. Alors, c'était quelque chose de très simple. Hein. On déplaçait donc, une des choses qu'il a mises donc, ici, c'était du tartre dentaire. On le montait sous la lentille qui est là, puis on regardait. Hein. C'est lui qui a vu le premier les bactéries dentaires. C'est le premier qui a vu les infusoires aussi, Van Leeuwenhoek. C'était un grand homme. Alors, il y a quelqu'un qui a utilisé son microscope qui s'appelait Offred Lamétri, qui est un type extraordinaire, qui est un philosophe mécaniste donc, du siècle des Lumières. Alors, il a écrit une phrase extraordinaire, ça, la réalité cachée, c'est derrière aussi des phrases comme ça. Il a écrit dans L'homme plus que machine, hein, le premier bouquin c'est L'homme-machine, et un deuxième très intéressant, L'homme plus que machine. Tous les curieux ont vu de ces animalcules, en fait c'était les spermatozoïdes, ils les appelaient les petits vers, le plus adroit s'insinuer dans l'œuf que lui fournit la femme. Alors, le plus adroit, c'est très intéressant, c'est le plus qui est intéressant. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un qui s'insinue et il bloque tout ce qui va se passer ensuite. Alors le voilà en train de s'insinuer. Alors ça, c'est des images qui ont été obtenues par Nielsen. C'est des images évidemment très jolies, etc. Alors la réalité qui est derrière ça, qu'on peut voir effectivement sous microscope, donc un spermatozoïde qui s'insinue, c'est quoi? C'est que dès qu'il s'est insinué, il crée une structuration à l'intérieur de l'œuf qui a été mimée ici in vitro par notre ami Jim Taboni. En fait, cette fameuse substance, la tubuline, qui sert à créer donc, la structure, le squelette de la cellule, elle se met subitement à faire un certain nombre d'oscillations, de concentrations. Ça se passe en 3D. Donc si je regarde la concentration, il y a des nœuds, c'est-à-dire des maxima de concentration, des ventres, des nœuds, des ventres, etc. Et cette structuration dans le sens de la tête aux pieds, c'est-à-dire dans le sens céphalo-caudal, se fait dans les secondes qui suivent la frappe de la coiffe du spermatozoïde sur la membrane pellucide de l'ovule. Et une fois que cette structuration est faite, c'est fini. Vous avez fait une brisure de symétrie, vous pouvez taper partout sur cet œuf avec d'autres chromosomes, vous n'arriverez pas à la changer. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si vous réfléchissez à vous, est-ce que vous avez, vous, des maxima et minima, etc., dans votre squelette, par exemple, de calcium? Ces ondes de tubuline sont aussi accompagnées d'ondes de calcium avec des maxima et des minima. Vous en avez, si je regarde vos côtes, une côte, c'est un maximum de calcium local. Vous avez un trou, les muscles intercostaux, minimum de calcium local. Vous avez une nouvelle vertèbre, etc. C'est comme si on avait la préfiguration après la frappe, finalement, pas de l'animal complet, parce qu'il n'y a pas tout le squelette, mais finalement d'une certaine organisation dans le sens tête-pied, dans le sens céphalo-caudal. Bon, ça, c'est absolument magnifique. Et ça donne presque une réalité à cette phrase mystérieuse de la scolastique qui disait qu'à l'intérieur du spermatozoïde, il y avait donc une espèce d'animalcule qu'on appelait l'homonculus, qui était la préfiguration de l'homme entier. Donc ça, c'est des travaux absolument merveilleux. Donc ça, c'est Taboni qui a obtenu ça en microscopie, puis les mathématiques qui ont été faites par Geneviève Dupont à Bruxelles. C'est des papiers que je vous engage à lire, c'est très très joli. Bon, ça, la cellule. Alors quand on en met plusieurs, elle me fait quoi, celle-là? Elle ne fait pas grand-chose. Mais la cellule, elle est vivante, une population de cellules, tous les petits points noirs, on les voit, voyez, bouger, c'était des noyaux. Et finalement, à l'intérieur de ce tissu cellulaire qui était uniforme, on voit se créer des trous. Alors en fait, les cellules, quand elles vivent, elles sécrètent une matrice, la matrice extracellulaire formée de collagène. C'est un petit peu comme des araignées. Les araignées, elles sécrètent un fil, puis elles se promènent sur le fil. Ben, les cellules, c'est pareil, elles sécrètent une matrice, elles posent une papade sur la matrice, elles se tirent, elles sécrètent encore, elles posent la patte, un pseudopode, elles avancent comme ça. Mais en s'amusant à ce jeu, donc de migration, elles font des structures très curieuses et très intéressantes si on met un film uniforme de cellules sur donc une matrice de collagène. En fait, elles se réorganisent pour faire des trous. Et c'est très intéressant ces structures à trous parce que dans les tissus, ces trous deviendront des vaisseaux. Alors ça, c'est une réalité qui est obtenue par ciné-microscopie, qui est assez difficile à expliquer. On va essayer de voir ce qu'il y a derrière. Alors ce qu'il y a derrière, c'est la chose suivante. C'est que progressivement, si je regarde à un certain temps, que je vais appeler T0 ici, donc les trous ne sont pas complètement formés. Au temps T1, ils sont pratiquement formés. C'était la fin du film. C'est le milieu du film, c'est la fin du film. Et si je m'amuse à faire une coupe horizontale et à regarder sur cette coupe horizontale, quelle est la concentration sous les cellules de la matrice extracellulaire ? Eh bien, les voilà ces concentrations au cours du temps, c'est-à-dire que le temps va dans ce sens-là, donc le temps T0 est ici, le temps T1 est là. Et j'ai représenté le temps dans cette dimension, et ici j'ai représenté l'espace qui correspond à ma coupe. Et en fait, quand on regarde la concentration, et ce qu'il y a d'admirable ici, c'est qu'en fait, ça résulte d'une simulation donc, mathématique, on retrouve au temps T0, si je compte le nombre de parois qui sont franchies, eh bien, je n'en trouve, ou le nombre de creux qui correspond au nombre de cellules, je ne trouve que 3 creux, un creux ici, un creux là et un creux ici. Celui-là commence à peine à apparaître. Et puis ici, j'en retrouve franchement 4. Donc ici, je franchis ce mur, ce mur, ce mur, ce mur. J'ai 4 murs que je franchis. Un mur cellulaire ici, avec sa matrice juste en dessous. Un autre ici, un autre ici, un autre ici. Ça veut dire qu'en fait, cette réalité qui est très complexe, hein, la formation des vaisseaux... Alors, ça vous intéresse peut-être pas trop au niveau donc, de l'embryon, mais au niveau d'une tumeur, la tumeur, elle vit comment ? Elle vit en se développant, en faisant migrer ses cellules, et ces cellules forment des trous qui seront des vaisseaux qui nourriront la cellule. Si on arrivait à empêcher, il y a beaucoup de cancérologues qui ont proposé ça, à empêcher la formation de ces trous, eh bien la tumeur, elle ne se nourrirait pas et elle mourrait. Et donc, en fait, c'est très intéressant d'étudier ça, et on arrive à expliquer presque complètement donc, la formation avec des... finalement des explications assez simples, hein, une modélisation qui est due à un monsieur qui s'appelle Turing, hein, qui a vécu en Angleterre donc, à la première moitié du XXe, il s'est suicidé juste après la Première Guerre mondiale. C'est celui qui avait, Turing, c'était un mathématicien, qui avait réussi à casser les fameux codes allemands. Et puis bon, il se trouve que probablement qu'il a dépensé trop d'énergie, mais c'est vrai qu'il a mal terminé, mais il nous a quand même légué un très très bon modèle, qui est le modèle de diffusion de Turing et qui permet d'expliquer la formation de ces vaisseaux. Alors, on peut suivre aussi, c'est un contourage automatique qui a été fait par l'informatique, par un de mes élèves allemands, Julian Mattes, de fibroblastes qui sont en train de boucher un trou, par exemple, fait par une plaie. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut, entre l'instant T0 et l'instant T1, repérer les cellules, celle-là on voit visiblement qu'elle a un peu bougé, on peut continuer à suivre les cellules tout au long de leur migration. Là c'est pas trop difficile parce qu'il ne s'est pas éculé beaucoup de temps, mais si celle-là il s'est écoulé par exemple 10 minutes, elle pourra se retrouver très loin ici, mais on l'aura suivi à chaque instant pas à pas, puisqu'on est capable de rapporter cette cellule à cette cellule-là, et on pourra donc avoir une idée de la manière dont migrent ces cellules. Et on pourra faire cette chose qui est un petit peu difficile à expliquer, mais je vais y passer peut-être 2 minutes. On peut faire, si vous voulez, sur une tumeur, donc on va démarrer d'une image initiale de tumeur qui est là, ce sont des tumeurs au niveau du cerveau, on pourra en fait, puisqu'on connaît la manière dont migrent les cellules, mimer sur machine des actions. Des actions, alors qu'est-ce qu'on peut faire sur un patient ? Donc ici, ce que j'ai mis en vertical, c'est le volume de la tumeur qui va être nul ici, puis qui va être très important ici, puis quand il sera trop important, le patient il meurt sur cet axe. Si on ne fait pas de traitement, le volume initial était important. On se rend compte que la mort arrive assez vite. Hein. Donc ça, c'est en jour. Vous voyez. Bon. Si on fait une radiothérapie, le volume décroît vers zéro, mais il y a un rebond après une période assez limitée, et on finit quand même par mourir. Alors, on peut faire de la chirurgie. Alors, vous avez deux types de courbes. Vous avez une courbe non pointillée qui représente une évolution réelle, et puis une courbe pointillée qui représente une évolution simulée, qui montre si on a bien compris le processus qui est derrière donc, ces phénomènes de migration et de revascularisation. On peut simuler une résection normale, qui n'a pas enlevé trop de matière, et une résection large, qui a enlevé beaucoup de matière. Alors on voit qu'avec la résection normale, on finit par mourir aussi. Là, probablement que la mort arrivera un jour ou l'autre, mais on finit par matérialiser sur cet axe-là, vous voyez, les temps de mort. Alors ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est utiliser, on ne le fait pas à l'heure actuelle, ça c'est le temps de survie, on ne le fait pas, on pourrait utiliser ce type de diagramme pour faire des files d'attente, par exemple chez les neurochirurgiens. Bon, il est clair qu'on prend les gens les uns après les autres, mais on pourrait très bien dire, écoutez, ce monsieur, la tumeur va mettre 3 ans à pousser, on pourrait le faire passer peut-être après un monsieur dont la tumeur pousse en un mois. Donc s'il n'y a pas de gestion des files d'attente sur la base de ces simulations, j'espère qu'un jour on le fera. L'organe. Alors l'organe, c'est un des endroits où on travaille beaucoup dans mon laboratoire. L'organe, on le modélise et il rentre chez les chirurgiens de l'hôpital de Grenoble dans un processus, l'organe assez intéressant, où qu'il soit situé. On travaille beaucoup avec les orthopédistes, mais aussi beaucoup avec les chirurgiens de la colonne vertébrale du cerveau, les neurochirurgiens, les chirurgiens aussi du genou. Et finalement, sur ce malade, on perçoit une certaine réalité. Alors on verra que la réalité cachée n'est pas tout à fait celle qu'on perçoit, et on a envie d'agir avec un certain nombre de systèmes de guidage. Et on ne pourra agir que si on perçoit une bonne réalité. Alors voilà un travail qui est fait, par exemple, sur un monsieur qui est un prognathe, c'est-à-dire que par rapport à vous, ça c'est un homme normal, en fait son menton avance, prognathe. Hein. Gnathé, c'est le menton en grec. Alors chez ce prognathe, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une série de simulations pour essayer de corriger des choses. Regardez le sourire, ce prognathe. On va le voir sourire avec son grand zygomatique. Hein. Il faut reconnaître que ça fait... On va le voir sourire de face. Ça fait... De profil, pardon. Alors... Bon, je ne sais pas, il ne veut pas. Il nous sourit de face. Il ne veut plus sourire de profil. Ça n'a pas d'importance. On va recommencer. Donc ça, c'est son sourire de face. Et ça, c'est son sourire de profil. Ça fait un peu Frankenstein, il y a quand même des problèmes. Alors, le sourire est fait essentiellement par les muscles grands et petits zygomatiques. Il faut 4-5 muscles pour sourire. Souvent, on voit quand on arrive dans les secrétariats, il faut 4 muscles pour sourire, il en faut 50 pour faire la gueule, donc souriez. Alors, cette réalité, si vous voulez, on va la travailler au niveau des os, c'est-à-dire qu'on va couper dans la mandibule, le maxillaire inférieur, l'angle ici, prendre la partie avant de la mandibule et puis la raboutir avec la partie arrière. Ça a l'air simple, mais le but, c'est à ce monsieur de lui redonner un souvenir convenable. Donc en fait, une fois qu'on aura fait cette résection ici, il va falloir unir les deux fragments en mettant une vis et il va falloir la mettre de la meilleure manière possible. Alors je vais essayer de vous expliquer progressivement comment on peut faire ce genre de travail. Bon, la meilleure manière possible, hein, c'est que quelqu'un, il n'y a pas de mystère, va prendre une plaque d'équerre, va vous mettre cette vis à l'intérieur donc, de votre mandibule. Et en fait, ça pose un problème absolument terrible qui est un problème de navigation dans le corps humain. Donc, souvent, le laboratoire fait des régates. Ça, c'était une régate du CNRS. On avait terminé 8e, mais ce n'était pas si mal. Et les deux qui travaillent le plus sur ce sujet-là, bon, c'est Stéphane Lavallée et c'est Philippe Cinquin. Bien, alors autrefois, finalement, un chirurgien, qu'est-ce qu'il faisait ? Il avait le corps humain. Et la réalité qu'il voyait, qui était déjà quand même une réalité pas trop mauvaise à partir de la réalité de son champ opératoire, de son champ visuel. Ah oui, il faut que je le fasse de l'autre côté, parce que là, je suis en train de le mettre dans l'œil des spectateurs, ce qui n'est pas très bon. C'est la réalité du scanner, c'est-à-dire qu'on fait des coupes scanner, on les représente sur un écran, et puis il n'arrête pas de tourner la tête en se disant « bon sang de bois, ce que j'ai sous la main, c'est une vertèbre, elle est où ?» etc. Et il fait ce qu'on appelle une... Registration, c'est un très mauvais mot anglais. Ça veut dire une mise en correspondance mentale de ce qu'on voit. On a la vertèbre, on n'en voit pas grand-chose de la vertèbre. Une fois qu'on a récliné les muscles paravertébraux, qu'est-ce qui reste ? Il reste les lames derrière. On ne voit pas le corps vertébral qui est très très profond, qui est à l'intérieur du corps à peu près à 8 ou 10 cm. On ne le voit pas du tout, on voit uniquement la partie arrière. Et un des challenges, c'est quand les vertèbres sont abîmées, de mettre des vis. Hein. Pareil, pour ça, Black & Decker, on met une vis. L'enduit, c'est qu'à l'intérieur de la vertèbre, il y a la moelle épinière. Hein, et que si la vis, elle va dans le mauvais sens, ça peut donner des paralysies. Donc cette mental registration, c'est bien, mais je vais vous montrer ce qui est mieux. Bon, on va naviguer. Les gens qui font de la navigation, ils disposent de quoi ? D'un sextant, Ils font de la navigation à vue directe, comme on l'a vu sur la photo d'avant. Ils utilisent des amers ou des phares, un GPS un peu plus compliqué, et puis des repères de terrain s'ils connaissent bien le terrain, et que le terrain est visible aux jumelles. Alors, en fait, si je regarde la fin donc, du 19e, Tsernov avait inventé un appareil qui permettait de faire des repérages donc, pour faire un certain nombre de gestes sur le cerveau, qu'il appelait l'encéphalomètre. Et c'était déjà un début de sextant. Donc on va être obligé de remplacer la navigation directe, qui est la mise en correspondance mentale, dont je viens de parler, par un certain nombre de marqueurs, on va faire des localisateurs, et on va essayer d'utiliser aussi des repères anatomiques en utilisant des atlas. Donc cette réalité, ben, la voilà maintenant. La voilà telle qu'elle apparaît sur les écrans. On navigue à l'intérieur du corps humain exactement comme on navigue au milieu d'amers, au milieu de cette réalité un peu plus compliquée, abstraite, GPS, et au milieu des repères de terrain, des petites collines, des montagnes, etc. Alors on a donné à cette navigation le nom de navigation surgétique, surgétique, surgery in informatics. On a mis les deux ensemble, ça a fait surgétique. C'est Philippe Cinquin qui a inventé ce mot. Alors on dispose d'atlas, il y a 4 grands atlas qui sont numérisés à l'heure actuelle, dont au moins un est disponible sur le net. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors en utilisant effectivement une capture d'informations sur le sujet, c'est-à-dire qu'avec des outils optiques, c'est un optotrack qui permet de suivre la peau du sujet. La peau est très intéressante parce que quand on a mis en correspondance la peau du sujet avec la, qu'on a sous la main avec la peau du scanner, en fait, on voit en transparence là où on doit aller, là où doivent aller les trajectoires. Alors, ben, cette fameuse vertèbre, on peut par exemple, le patient est ici au point d'interrogation, on peut prendre des projections radio. On met un appareil de radio ici, un là, et on prend 2 projections dans la salle d'op. Ceci dit, il y a une autre réalité qui est la réalité de cette vertèbre qu'on a prise au scanner ou en IRM, qu'on a reconstituée en 3 dimensions à l'intérieur de la machine. Et on sait à l'intérieur de la machine finalement la projeter aussi sur 2 plans orthogonaux, exactement comme dans la salle d'op. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait cette projection à l'intérieur de l'ordinateur et on essaie de mettre en correspondance la projection obtenue dans la radiographie horizontale et dans la radiographie verticale. Et à partir du moment où on a fait cette mise en correspondance, ce calage, on pourra en fait opérer la réalité profonde qui est le référentiel donc qu'on appelle préopératoire, qui est un référentiel abstrait informatique qui est dans la machine et qui correspond à la reconstruction à partir des coupes scanner de la vertèbre en 3 dimensions. On la met en correspondance avec le référentiel donc péropératoire qui est le référentiel des radios. Et une fois que les deux ont été mis en correspondance, si on a déterminé une belle trajectoire pour mettre une vis dans le pellicule, bien, il suffit de l'exécuter. Donc on va regarder l'exécution. Ça, c'est quelque chose d'assez joli qui montre le placement de la projection des contours de la réalité cachée donc, qui est dans l'ordinateur sur les radios de la colonne en extension ou en flexion. C'est absolument parfait, ce matching. Et alors ensuite, on peut aller mettre, alors avec une précision diabolique, hein, parce que vous voyez, la moelle épinière est là. Vous voyez la taille de la vis. Vous voyez qu'en fait, ici, qu'est-ce que j'ai ? Il me reste 0,5 cm. Et que bon, si je n'ai pas cette précision donc subcentimétrique, eh bien, je vais faire énormément de dégâts. Et la mise en place finale se fait de manière pratiquement automatique. Alors, on a maintenant des choses assez extraordinaires. On peut donner à voir, bon, ça c'est des cobayes chirurgiens qui commencent à utiliser, des lunettes dans lesquelles on voit la trajectoire réelle qui est suivie par votre bistouri, par exemple, et on superpose un cône dans lequel vous devez rester. Et puis ça, c'est une recherche que je fais avec un de mes amis donc mexicain, Paul Baquirita. En fait, on a plusieurs manières de faire rester le bistouri près de la trajectoire qu'on veut. Donc, on veut essayer de transformer la trajectoire réelle en trajectoire virtuelle que vous avez décidée dans le référentiel 3D donc, du scanner. En fait, on peut taper de manière virtuelle sur les bords donc, d'un petit tube dans lequel est la trajectoire réelle avec un son, c'est-à-dire que le son devient de plus en plus aigu. Si vous vous éloignez donc du centre de la trajectoire admissible, vous touchez les bords, hein, ça devient aigu, hein, vous rentrez avec un son grave. Mais cette canalisation sonore est finalement très perturbante dans les salles d'op. Et la canalisation qu'on propose maintenant, c'est une canalisation qui vous fait sur la langue. Donc vous avez 144 électrodes qui sont derrière les incisives supérieures. Vous y mettez votre langue ou pas, c'est des choses qu'on ne touche pas dans les conversations. Il faut vraiment y aller. Et quand vous y allez, en fait, vous sentez où vous êtes dans le tube. Ça, c'est une invention extraordinaire de Paul Baquirita. Vous l'avez peut-être vu dans la presse ou à la télé récemment. Quand on fait ça à un aveugle, moi je l'ai fait, hein, on m'a mis un bandeau sur les yeux, on m'a mis donc cette électrode derrière les incisives, on a mis sur un écran noir des barres blanches horizontales, des barres blanches verticales, et moi je les ai senties. hein, comme si je chantais un bonbon Haribo là, qui est posé verticalement, horizontalement, et même encore plus. La dame donc, qui fait ça, Madame Sampaio, à Strasbourg et bientôt à Paris, elle m'a mis un rond blanc, puis on a exploré le rond blanc avec une caméra. La représentation de la caméra, je l'ai eue sur ma langue, et je me suis dit, bon sang de bois, la barre, elle est bizarre. Hein. Je trouve des frontières partout, dans toutes les directions. Donc j'ai dit que ça devait être un polygone régulier. Bon, c'était un polygone tellement régulier que c'était un cercle blanc. Et j'ai vu le cercle blanc avec ma langue. Et ils font des choses extraordinaires. Bon, Paul Bakirita, qui a inventé le pivot lingual, c'était un pivot qui n'est pas le pivot auditif ni le pivot visuel, c'est un pivot très intéressant. Il avait fait ça pour les pilotes de l'US Air Force, et c'est nous qui appliquons ça donc, pour les... C'est nous qui appliquons ça pour les... Alors, pour les chirurgiens. Alors, je vais terminer très rapidement avec l'étage individu et population pour vous montrer qu'il y a aussi de la réalité cachée. On fait des appartements intelligents avec donc des capteurs volumétriques permettant de savoir où sont les gens. Et voilà. Il y a des tas d'autres capteurs. Hein. On prend évidemment la tension et beaucoup de capteurs sur l'individu. On sait où il est à tout moment et on le surveille sur des stations de surveillance. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout. Comme ça, ça n'est pas du tout invasif. S'il y a le moindre problème, on peut intervenir. Et en fait, les variables cachées sont très intéressantes. Sur tous ces paramètres, on étudie longtemps les gens. Donc, on prend une personne très particulière et puis on regarde ces variables, comment elles bougent au cours de la journée. Par exemple, ici, c'est une variable qui nous dit combien de temps on a passé dans une pièce au cours d'une journée. Alors en fait, l'alarme, on ne va pas la déclencher n'importe comment. On va prendre un certain nombre de ces variables. On va comparer les chronogrammes, c'est-à-dire les évolutions personnalisées au cours de la journée, à une évolution donc moyenne. Et si on s'aperçoit que subitement, on est resté, par exemple, là, pendant, on va dire, 5 minutes dans une pièce dans laquelle on ne devait pas rester 5 minutes et qu'en plus un capteur de pression ait été activé au sol et que ce capteur soit sur 1 mètre carré toujours activé. Ici, juste avant, un accéléromètre s'est déclenché parce qu'on s'est penché, pas pour se lasser les souliers parce qu'on est resté 5 minutes sur ce mètre carré. Mais ça permet de faire apparaître donc une variable qui sera binaire cette fois, c'est-à-dire qui sera rouge ou vert suivant qu'on doit intervenir ou pas à l'hospitalisation. Je vous rappelle que en fait, c'est très important ce type d'extraction de variables sans embêter les gens, sans caméra, parce qu'une des principales causes donc, d'hospitalisation chez un parkinsonien, c'est la chute. Hein. Ce que je viens de vous raconter, c'est l'observation, par exemple, d'une chute. Quelqu'un qui est resté longtemps dans un endroit après avoir fait une accélération. Vous prenez un couple, le monsieur il est parkinsonien. Hein. En général, vous allez avoir 3 chutes et il sera mis dans un établissement spécialisé. Une chute qui arrive à minuit, le monsieur va pisser, il tombe. Il est un peu lourd, sa femme ne peut pas le remonter, et à minuit, on ne téléphone pas le SAMU pour remettre quelqu'un dans le lit. Donc sa femme, elle reste assise à côté du monsieur pendant tout le reste de la nuit, c'est-à-dire de minuit à 6 heures. Elle fait ça 3 fois, au bout de 3 fois, elle l'hospitalise. Si, quelque part, la machine a vu cette réalité et a allumé une ampoule rouge sur un écran, ce n'est pas un médecin qui a besoin de venir. Si l'ampoule il est allumée juste à ce qui correspond à l'intervention d'une nurse un peu bien taillée ou bien d'un aide-soignant, ils viennent, on remet tout le monde dans le lit et peut-être que 3 ans après, ce monsieur sera encore auprès de sa femme chez lui. Donc ça a l'air de rien, il y a une énorme recherche sur ce qu'on appelle ici la fusion de données cachées. Et je pense que c'est des choses qui sont intéressantes au niveau de l'individu. Alors, au niveau de la population, voilà une des recherches qui est faite donc, par nos amis vétérinaires, dirigée par Philippe Sabatier. Ça, c'est la dengue au Sénégal. Donc, il y a des gens ici qui connaissent et qui ont vécu au Sénégal. Il y a un des problèmes, c'est qu'une maladie très grave qui est transmise par le moustique est due au fait qu'au bord de certaines mares, suivant l'hygrométrie, eh bien, on est dans des conditions favorables ou défavorables au développement des œufs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est de l'imagerie spot. Donc là, il y a déjà un gros filtrage parce que c'est de l'imagerie infrarouge qui représente la végétation. En fait, dans cette végétation, en infrarouge, l'eau passe très, très mal. Hein. La réverbération des mâts fait que l'eau passe très mal. Donc, en faisant un masque inverse, on arrive à détecter les zones d'eau. On fait des zooms, on arrive à voir les mâts. On reproduit sur le visible, ça c'est ce qu'on pourrait presque observer donc, si on était en avion, un petit peu. Il faut monter haut, hein, parce que c'est le fleuve Sénégal, je ne sais pas quelle est l'altitude du satellite, mais c'est de l'imagerie spot, en fait on est assez haut. En comparant les deux, on se dit c'est bien des mares, et la variable cachée qui sert à prédire quel va être par exemple le degré donc, d'invasivité de l'épidémie de dengue l'année suivante, mais c'est tout simplement cette surface. Si cette surface est importante, vous aurez des bords nombreux, des tas de sites de ponte pour le moustique donc, qui est le vecteur de la dengue, et donc on pourra s'attendre et on préparera le corps médical donc, du Sénégal à une épidémie importante de dengue. Alors, ça a l'air décousu ce que je vous ai dit, bon, j'en ai fini là maintenant. En fait, c'est pas, il y a une réalité derrière, c'est qu'on a toujours observé, que ce soit avec un microscope ou depuis le spot, donc on a quand même été sur une grande, en métrologie, sur une grande variété de scaling, d'échelle d'acquisition. Mais chaque fois, finalement, si on s'était contenté d'observer puis de faire un cimetière de photos, hein, je veux dire, ça n'aurait donné lieu à aucune action, à aucune décision médicale. Alors la médecine, c'est une science, elle s'appuie sur la science biologique. Ce qu'elle a de différent un petit peu avec la science biologique, c'est la biologique, c'est le normal, mais la médecine fait à la fois le normal et le pathologique, et c'est de distinguer les deux, mais c'est aussi un art, et c'est un art de l'action. Et pour agir, ben, les variables qu'on peut décrire, les enluminures, etc., sur des pages et des pages, ce n'est pas intéressant. Il faut, avec tous les outils qu'on a dans un hôpital, on a une inondation de données, en fait. On a beaucoup trop de données qui arrivent du scanner, qui arrivent de l'IRM, qui arrivent des microscopes, des pathologistes, etc. Il faut, à partir de 1000 données, savoir en extraire deux. Et à partir de ces deux données, décider où est-ce qu'il faut mettre votre vis dans la vertèbre, qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement agir, où est-ce qu'il faut, en termes de prévention ou de vaccination, envoyer des médecins. Donc, en fait, la médecine, c'est essentiellement un art de l'action et il faut, pour exercer cet art, voir le caché. J'ai essayé de vous montrer des exemples dans lesquels on voyait une réalité cachée. Cette réalité, elle est souvent très abstraite, mais vous avez bien vu qu'elle était mathématisable et représentable. Et l'opération qui consiste à la mathématiser et à la représenter, le nom qu'on lui donne dans ma discipline, on dit qu'on modélise. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Arriver à modéliser à chaque niveau, comme oui. Vous l'avez démontré, oui. est-ce que les 3 ou 4 niveaux que vous avez donnés sont les seuls et est-ce qu'il y a des niveaux intermédiaires qui peuvent être intéressants?
Alors, il y a des niveaux qui seront sûrement importants en biologie, qui est le niveau moléculaire. Ceci dit, il est assez difficile pour le moment de représenter les grosses molécules biologiques, mais c'est des molécules qui sont importantes à représenter puis qui bougent surtout. Et leurs mouvements sont probablement essentiels pour de nombreuses explications. Alors, à l'heure actuelle, je crois que les chimistes qui regardent le mouvement à l'échelle quantique sont capables de représenter des assemblées d'une centaine d'atomes. Malheureusement, les grosses molécules qui sont derrière les phénomènes que je vous ai montrés ont jusqu'à des milliers d'atomes. Alors, quand on a 8 jours des plus gros craies, des plus grosses machines, donc avec 100 atomes et qu'il faut passer à 1000, pour le moment, c'est des choses qu'on ne sait pas faire. Donc, le niveau moléculaire est très, très difficile à obtenir. Alors, l'autre niveau sur lequel il y aurait du travail à faire, c'est le niveau population. Là, c'est un petit peu le début, ce que je vous ai montré donc, avec l'imagerie SPOT. Bon, les Américains sont plus avancés que nous, puisqu'ils ont un centre d'observation des épidémies qui s'appelle le CDC, donc, qui est à Atlanta, dont vous avez entendu parler, qui intervient dans de nombreux films et dans de nombreux romans. On n'a pas ça en Europe encore. Donc, c'est un embryon qu'on a lancé donc, avec M. Allègre dans le programme qu'avait signalé notre collègue Leroux tout à l'heure, qui s'appelait le programme Technologie pour la Santé. On essaie de faire un petit CDC donc, au niveau européen, et avec l'aide du CNES, heureusement le président du CNES, M. Bensoussan, bon, je pense, a trouvé que c'était un bon projet. Heureusement, l'INRA aussi a trouvé que c'était un bon projet, les écoles vétérinaires, et aussi les militaires, et aussi pas mal de gens qui sont sur le terrain. Donc en fait, j'espère qu'avec l'observation, par exemple satellite, on arrivera à dire des choses sur l'évolution de nombreuses maladies, sorties du réservoir animal ou par exemple sorties du réservoir africain. Bon, ça, c'est des domaines sur lesquels il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, entre les deux, tout ce que j'ai montré, c'est quand même très travaillé. Donc, ce n'est pas tellement dans l'imagerie qu'il faut faire des progrès, c'est plutôt éviter l'inondation d'images. Un des problèmes qu'on a dans un hôpital, c'est qu'on produit chez moi 1 téraoctet d'informations par an sur les 2000 patients. 1 téra, c'est 1000 gigas, 1 giga, c'est 1000 mégas, donc ça fait 1 million de mégaoctets, et 1 méga, c'est déjà gros. 1 méga, c'est la plupart des images que je vous ai montrées, c'était des images qui faisaient 1 méga. Donc 1 million d'images, et ça, c'est trop. Donc il faut savoir filtrer. Je dirais, sur l'échelle intermédiaire, pas d'appareils supplémentaires, ou des appareils intelligents qui prennent la modélisation de la réalité et qui n'extraient de la réalité, un petit peu comme on fait dans l'appartement. On ne voit pas tout, hein. On ne fait plus de cinéma, regarder les gens et aller poursuivre à l'intérieur de leur appartement. On n'extrait que des variables pertinentes. Donc l'acquisition couplée à la modélisation, qu'on appelle nous des fois model-driven acquisition, ça c'est probablement un secteur sur lequel on a beaucoup de choses à faire et sur lesquels les Français ne sont pas forcément mauvais. Donc travailler dans l'infiniment petit la molécule, travailler dans l'infiniment grand, donc l'imagerie satellite, mais entre les deux, finalement, pas faire trop de progrès dans l'acquisition, sauf si on la couple avec la modélisation. Et plutôt que se faire inonder et avoir des cimetières d'images, parce qu'après, dans ces cimetières, on ne retrouve plus rien en plus. Si vous faites ça sur des ordinateurs, si on vous demande de retrouver pour un malade qui est venu là il y a 3 ans, l'image pertinente, etc., qui montrait là où il fallait traiter la vertèbre, personne ne la retrouve. Donc, essayez de ne pas avoir trop d'informations, de diminuer l'information Dans bien des cas, on peut la diminuer par 50, hein, passer de 100 à 2, ce n'est pas du tout absurde. Et ça, c'est un travail très, très intéressant qu'on peut faire à l'heure actuelle sans dépenser finalement trop de sous sur le plan de la recherche.
Existe-t-il une modélisation reliée à l'IRM ?
Oui. Alors, je ne vois pas, j'aime bien voir les gens. Ah oui, oui, je vous vois, madame. Oui, oui, effectivement, ben, l'IRM, si vous voulez, c'est quelque chose d'intéressant qui est lié au champ magnétique créé par l'activité électrique du cerveau. Donc, en fait, ce champ magnétique, il est géré par les équations de Maxwell. Le cerveau est un peu ennuyeux parce que c'est une zone très hétérogène. Chaque zone a des propriétés de permittivité, de conductivité un petit peu différentes. Mais les gens modélisent ça. C'est dur, mais les gens modélisent. Ils arrivent même à faire des atlas virtuels. Vous leur donnez une coupe Visible Human que j'ai citée tout à l'heure comme atlas. C'est un prisonnier qui était découpé en tranches. Vous donnez une des tranches à quelqu'un qui fait de la modélisation donc, des équations de Maxwell et il vous donne l'image IRM correspondante. C'est très, très intéressant. Donc, il y a un gros travail à l'heure actuelle qui est fait à Singapour, au Canada et un peu en France. Bon, en France, on est un peu à la traîne parce que je ne suis pas sûr que nos imageurs aient compris tout l'intérêt de cette modélisation. Mais à Singapour et au Canada, où il y a de très, très, très bons travaux. C'est des maths qui sont très dures, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de modélisation oui, derrière l'IRM. Voilà, je crois qu'on arrive, écoutez, au bout des 20 minutes.
Merci beaucoup.
Non, je vous en prie, c'est moi. Je vous remercie pour votre attention.